Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval. Pour un nouvel épisode ABD Podcast, je reçois aujourd'hui Jean Nourry. Jean,
bonjour,
merci
Aurélien.
De nous rejoindre.
Bah, avec plaisir, merci de m'accueillir ici.
C'est cool de t'avoir ici à Transfer, mon partenaire digitalisation. Donc un épisode totalement consacré aux fessiers. Jean a un parcours un peu atypique, c'est un jeune préparateur physique. Déjà, je suis content de recevoir un représentant de la jeune garde, puisque paraît-il que je fais maintenant partie un petit peu des anciens, même si je m'en raconte que non. Jean vient de l'aviron, il est entraîneur d'aviron.
Et c'est ça.
Préparateur physique, notamment dans le volleyball.
Notamment, oui.
D'ailleurs, formé à Lyon.
Ouais, formé à Lyon, au pôle de Lyon.
Voilà.
On passe un petit bonjour à Fabien Roy,
très
et Arnaud Gaillard.
Avec mon ami Fabien Roy, à la fois martial artiste et joueur de volley, lui aussi atypique.
C'est vrai que vous
avez ça en commun. Écoute, merci de venir partager sur ce sujet, un sujet vraiment important.
Ouais.
Un sujet qui est particulièrement remis à l'actualité du jour avec le livre Fessier de Brett Contreras qui vient de sortir au moment où on enregistre ce podcast, qui vient de sortir en langue française. Un livre absolument gigantesque sur le sujet. J'imaginais même pas qu'on puisse écrire autant de pages sur un thème aussi spécifique. C'est dire à quel point il est essentiel dans la performance, bien sûr, mais avant tout dans la prévention.
Ouais, non, mais c'est un thème qui est central et qui est surtout, moi ce qui m'interpelle surtout, c'est cette histoire d'amnésie, quoi. C'est le fait qu'aujourd'hui, dans la société qu'on a aujourd'hui, on est tout le temps assis en fait. Et donc quasiment on oublie le fessier se débranche, quoi.
Le fessier se débranche,
trouve incroyable.
Il y a une vraie déconnexion liée à notre posture de repos. Qui fait que certains grands entraîneurs fonctionnels, je pense notamment à Greg Cook, qui disent entretenez vos squats, j'essaie de traduire mais c'est pas tout à fait mot à mot, maintenez vos squats, mais développez vos soulevés de terre.
Ouais.
Tout est dit.
Ouais. Non mais ouais, c'est vraiment, la sédentarité dans laquelle on vit aujourd'hui arrive à des déconnexions musculaires, quoi.
D'ailleurs, pas que la sédentarité, parce que même les athlètes de haut niveau, ils viennent à l'INSEP ou au pôle en transport en commun ou en voiture. Ils passent leur temps à étudier assis. Ils mangent assis. Ils vont aux toilettes assis.
On fait même un truc en aviron, on fait même un truc incroyable, c'est qu'on s'entraîne assis, quoi.
Vous entraînez assis.
On fait du sport assis, quoi.
Quelle bande de feignasses.
Ah ouais, non, mais... Ah, mes professeurs en STAP, ils aimaient bien faire des petites vannes comme ça. Ah, les rameurs, on fait du sport assis.
Pourtant, Dieu sait que c'est dur.
Ah ouais.
Alors justement, du coup, un peu, j'imagine, une révélation pour toi, toi qui es en fermeture, en flexion de hanche.
Tout le temps.
Presque permanente, voilà. Logique interne, tes fessiers sont forcément sous-exploités. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des règles en avion comme ça de compensation, d'équilibration?
Non, pas vraiment. D'ailleurs, on est même dans un système français aujourd'hui, on est même en prépa physique, on fait la même chose que notre mouvement, alors qu'en général, on est plutôt du genre à essayer d'équilibrer quand on est au sol, à faire justement les patterns de mouvement qui sont inverses pour rééquilibrer les ratios de force. En avion, c'est un peu différent. On n'a pas vraiment cette culture encore, mais ça se développe tranquillement. Moi, je l'ai appris dans le volet, en fait, l'histoire de la... Je faisais mon stage dans le volet quand j'étais en master à Lyon, et j'ai appris cette histoire d'amnésie des fessiers pendant ma première année de master. Et je me suis dit, waouh, mais attends, ils me disent que les gens ne sont pas assez en extension de hanche, mais nous, en plus, on fait du sport.
En ultra-flexion, ouais.
Donc là, je me dis, waouh. Et puis après, j'ai commencé à regarder un peu les rameurs. Je me suis rendu compte que personne n'avait de fesses. Et vraiment, c'est pathologique, quoi. On est tous assis tout le temps, donc on n'a pas de fesses. Et beaucoup, beaucoup de lésions, beaucoup, beaucoup de rameurs, tous les rameurs sont déjà pleins de douleurs de dos. C'est chronique et c'est universel.
Et partagé, ouais,
dans
ouais.
Tous les rameurs qui se sont entraînés à haut niveau, à plus de 8-9 fois semaine, ont déjà eu un moment, un petit mal au dos, au moins un petit quelque chose.
Et pour autant, donc, ça n'a pas vraiment allumé de lumière.
Je pense que ouais, les gens ne savent même pas que... Et c'est là-dessus que... C'est pour ça que je m'étais dit que c'était une thématique intéressante. C'est parce que, en fait, que ce soit dans le volley ou dans l'aviron, qui sont les deux sports que je fréquente le plus, les gens ne savent pas, en fait, à quel point les fessiers sont importants. Donc, dans l'aviron, on a ce côté prévention. Dans le volley, on a le côté prévention et performance, parce que ça permet aussi de sauter haut, de rester en l'air. Et les gens, les entraîneurs... ne savent pas à quel point c'est important de développer les fessiers.
Bah, la préparation physique a un peu cette mission de transversalité et de naïveté quelque part. En arrivant dans certains univers, on sait à quel point les sports sont cloisonnés les uns par rapport aux autres, dans leur approche de tout, en fait, de l'entraînement neuromusculaire, comme de la récupération, comme de l'entraînement métabolique. Et on se rend compte que souvent, par le préparateur physique, ou par le kiné, ou par... ou par l'ostéopathe, ou par... Enfin, des gens qui arrivent de manière un peu naïve dans l'univers, parfois, quand bien même seraient-ils d'ailleurs des pratiquants, leur cœur de métier étant transversal,
ouais.
Ça les amène à apporter une nouvelle vision, et parfois qui sont des visions ultra simples, ultra évidentes, là, ce qu'on est en train de dire.
C'est pas
ouf. Et pour autant, il faut comme ça quelqu'un de naïf et de neutre, et de pas marqué de manière extrêmement dure par le paradigme dans lequel se trouve les sportifs qui pratiquent leur propre discipline et quelque part faire péter le modèle ben
après,
au moins là-dessus.
Enfin, ouais, l'histoire du modèle, tout ça, c'est un autre débat, mais ouais, être capable de prendre du recul, d'avoir de la transversalité entre, ben, en tant que préparateur physique, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est la richesse qu'on peut aller chercher dans d'autres disciplines, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu changer de discipline quand j'ai fait mon master et je suis parti dans le volley.
Génial. Là, tu prends un sport de triple extension,
complètement
un sport ultra verticalisé.
Ouais.
C'est presque l'inverse.
Une demande de tâche complètement opposée, quoi.
Ouais.
Et du coup, je me suis vachement. J'ai mis un an à peu près à comprendre vraiment la demande de tâche. Et je me suis vraiment éclaté. Ouais, j'ai appris plein de nouvelles choses. Alors que j'avais l'impression déjà d'être pas mal. En fait, j'étais rien du tout. J'ai appris. Puis aux côtés des professionnels avec qui j'étais, surtout, qui m'ont aiguillé dans tout ça. Tu vois pour revenir sur un truc complètement qui n'a rien à voir, mais l'haltérophilie, je pensais pas que ça servait à grand chose. Et en fait, en travaillant avec dans le volet, bah, je me suis rendu compte qu'en aviron, c'était un game changer aussi. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui, se sortir de sa discipline, c'est intéressant. Et c'est, moi, je pense, important.
C'est prendre la mesure de certains outils qu'on n'utilise pas forcément culturellement ou qui ne font pas encore sens parce qu'on est tout le temps dans l'ultra spécifique.
Ou parce que même on ne se rend pas compte parfois de l'intérêt que ça a et des bénéfices que ça apporte.
Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussel-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
Ouais, du coup, je mets un petit bémol par rapport à ce que je peux dire parce que je suis parfois assez tranché, tu sais, sur le côté spécifique. Je suis assez attaché à l'idée de transférer, de se rapprocher au maximum de l'activité cible. Je suis même assez anti-PPG, tu vois, prépa physique généralisée. Et d'un autre côté, il y a des moments où la généralité est une nécessité quand on en vient à l'équilibration de certaines chaînes agonistes, antagonistes ou latérales ou certaines épaisseurs de chaînes aussi. On peut parler des chaînes superficielles ou des chaînes profondes, c'est encore un autre sujet. Il y a des moments où il faut revenir sur du généraliste. Il faut revenir sur des espèces d'invariants, de problématiques qui ne sont pas spécifiques à la discipline, mais qui sont spécifiques à l'humanité à un moment donné.
Ouais.
S'il faut, dans 10 ans, on aura tous des chaînes postérieures fantastiques parce que on fera que du télétravail debout, assis sur un Swiss ball, et puis encore assis sur une chaise, et puis rush debout, et puis tu vois. Et du coup, finalement, les gens se déplaceront presque plus en voiture. Et, tu vois, on ne sait pas comment vont évoluer nos modes de vie et notre perception des choses. Et s'il faut, dans 10 ans, en fait, ce sera l'inverse.
Mais c'est toi qui disais à un moment, si je devais reprendre une équipe aujourd'hui, une équipe des athlètes complètement loin d'un objectif, bah, je ferais, je sais pas, un mois de kettlebell, un mois de ceci, un mois de cela, pour que tout le monde, un mois de mobilité, pour que tout le monde ait une base qui te paraît l'essentiel athlétique. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et que tout le monde soit capable de se mettre le cul par terre, que tout le monde soit capable de swinger correctement.
Que tout le monde soit capable d'activer ses fessiers.
Par exemple. Ça me paraît aussi être important.
Et donc ça, aujourd'hui, voilà, dans le monde dans lequel on vit maintenant, l'humanité a besoin de fessiers. Voilà.
Ouais.
Quelle que soit leur discipline. Alors, on prend des exemples absolument extrêmes là, avec l'avion, évidemment. Mais je peux vous garantir que j'ai certains de mes judokas qui, pourtant un sport de flexion, extension de hanche, hein, quand on va finement dans le mouvement et qu'on comprend vraiment comment créer les actions-réactions, il y a de la flexion, de l'extension de hanche. Je prends un autre sport dans lequel j'interviens beaucoup, le golf, c'est un sport de triple extension. Il y a une corrélation entre la distance de frappe en swing et la détente sèche.
Ouais.
Imagine ?
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Sport auto.
J'aimerais bien voir des golfeurs sans une barre de hip thrust parce que, à mon avis, ça doit envoyer.
Ben, c'est sûr. Enfin, c'est ceux qui sont vraiment entraînés, bien sûr. Le sport auto, bon, ben, alors là, c'est les problèmes x2 de l'aviron, t'imagines, parce qu'en plus, eux, ils sont calés dans leur baquet. Donc, véritablement, c'est une problématique transversale. Alors, comment on l'adresse ? Comment tu l'adresses, toi ?
Moi, pour l'aviron, que ce soit pour l'aviron ou le volleyball, c'est assez similaire. C'est que je mets dans mes contenus de force, dans mes contenus d'entraînement en prépa physique, donc souvent dans les contenus de force et puissance, ben déjà le hip thrust a une place prépondérante, quoi, pour commencer. Deuxièmement, mes rameurs...
Je vais juste t'arrêter une seconde, je suis désolé, mais c'est vraiment important ce que dit Jean là, parce que le hip thrust, jusque-là, au mieux, c'est un mouvement complémentaire.
Ouais, pour moi, c'est un main lift, tu vois.
Pourtant,
il est avec les trois de la force athlétique, l'haltéro. Et pour les rameurs, je rajoute le tirage parce que c'est notre mouvement phare.
Mais on pourrait même presque le faire rejoindre le Big Five. Ce serait le six du Big Five.
C'est mon Big Six, quoi.
C'est pas absurde. Bon, moi, j'ai aussi les swing kettlebell auxquels je suis très, très attaché, mais qui sont plus dans un mouvement dynamique sur lequel tu vas générer des niveaux de force moindres quand même. C'est plus un mouvement de puissance, mais qui est aussi très important. Mais je suis d'accord avec toi, le hip thrust doit être rehaussé dans la hiérarchie des mouvements de musculation et de renforcement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as attaqué un deuxième point.
J'ai attaqué un deuxième point, c'est que je l'ai fait squatter le plus profond possible, tout le temps. Donc ça active les fessiers en plus.
Bah, je te coupe encore une fois. Je suis désolé, mais ça c'est important. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une approche purement spécifique. C'est-à-dire que le débat du squat complet versus demi-squat reste encore un peu actif, mais quand même avec quelques collègues, là on l'a bien éteint quand même. On est allé fort sur les gars, squat complet. Je crois que là c'est bon, le message sur cette antenne, en tout cas il est clair, il est passé. Seulement il y a encore des réactions de spécificité sur « oui, mais si je fais du volleyball, je suis désolé, je fais que des tirs de squat ». Ben ouais, mais si tu fais des volleyballs, t'es quand même venu au boulot, c'est un pro, en bagnole, tu passes quand même ta vie assis, et malgré tout, tu vas avoir besoin de tes fessiers pour sauter haut à un moment donné. Et donc, pour des raisons non pas spécifiques à ta discipline, mais à ta condition d'être humain aujourd'hui, en 2020, eh ben oui, il va falloir que tu fasses du squat complet, et pas que. Et pas que. Excuse-moi de t'avoir coupé encore.
Du coup, ça squatte profond. Et après, dans les exercices d'assistance, dans l'exercice un peu à côté, je mets, en fonction des besoins des athlètes, plus ou moins de renfort fessier, quoi. Donc, je travaille notamment avec les flat bands autour des genoux, ou les gros élastiques là, qu'on peut voir parfois dans les gyms, qui font ça d'épaisseur, et qui permettent de travailler en abduction de hanche.
Et donc, une grande activation des moyens fessiers, qui sont souvent les moins utilisés aussi, hein, de cette portion-là. Ce dont on parle, c'est de l'efficacité globale de la zone des hanches, et qui, on le sait, est centrale dans la motricité humaine. Ok, alors, justement, on a des gens qui sont particulièrement faibles en fessiers, et qui ont la particularité d'être frappés de cette amnésie, d'être frappés de cette déconnexion durable. Et donc, la première étape, déjà, ça va être de leur redonner vie à ces fessiers. C'est-à-dire que, évidemment...
Déjà, on peut peut-être, je ne sais pas, vous me dites, hein, mais on peut peut-être rappeler ce que c'est le phénomène de l'amnésie, quoi.
Excellent.
Parce que je crois que c'est le docteur McGill qui l'a... Enfin, moi, c'est la source que j'ai
la source la plus connue sur le sujet.
Dans Laubach Disorders, il explique que, au bout d'un moment, l'être humain, quelque part, n'utilise tellement pas ses fessiers, donc ils sont surtout utilisés pour courir et pour sauter, dans la vie de tous les jours, que le cerveau perd la connexion, donc le système neuromoteur perd la connexion avec le muscle fessier, et le jour où on a besoin de sauter ou de courir, on n'est même plus capable d'activer ces muscles fessiers. Et donc, le problème arrive maintenant, c'est que les synergistes, donc qui sont les muscles qui font les mêmes actions motrices que les fessiers, prennent le relais à leur place, mais n'étant pas assez forts et assez puissants, y a toujours des compensations qui se créent et des blessures ou des sursollicitations et du coup souvent des blessures, des petits bobos ou des gros bobos. Et donc nous, par exemple à l'aviron, on est tout le temps en flexion, mais on a un gros mouvement d'érection de brachie et ce mouvement d'érection de brachie peut être destructeur si on n'est pas bien équilibré au niveau des hanches. Au bout d'un moment, ça crée des décalages et des tensions et ça fait... Ça tire sur les hauts bancs osseux et après,
on casse quelque chose. Tu travailles toujours sur les érecteurs du rachis, jamais sur les extenseurs de hanches.
Et dans le volet, c'est pareil. Quand on a, donc, je reprends mon parcours personnel, mais quand on a des gamins qui rentrent en pôle, qui ont 15 ans et qui se mettent à s'entraîner tous les jours, et forcément, leur fessier, s'il n'est pas sollicité, c'est leurs ischios, leurs érecteurs de rachis qui vont prendre le relais, ou qui l'ont fait jusqu'à présent. Mais une fois qu'ils vont passer à un entraînement par jour, les muscles ne vont plus pouvoir suivre et il va y avoir un bobo quelque part, quoi. Donc, en premier lieu, il faut faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'amnésie des fessiers. S'il n'y en a pas, s'il y en a et s'il n'y en a pas, il faut ou les réveiller. Et ensuite, une fois qu'ils sont réveillés, il faut les renforcer.
Ouais. Et là, on doit constater quand même qu'il y a... souvent, un raccourci qui est pris, je remarque, moi, dans les gyms, en fitness, hein, un peu classique, avec des coachs qui ont vu sur YouTube des gens utiliser les hip thrusts, les kettlebell swing, des mouvements de grande explosivité ou de grande force, comme le deadlift en force, passer tout de suite à cette gamme-là. Or, les gens
n'ont
toujours pas réactivé leurs fessiers.
Ouais.
Du coup,
c'est là que ça casse, hein.
On entraîne de la compensation, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, effectivement, on crée de la blessure.
Ouais, un soulevé de terre jambes tendues, où on cherche à aller fort sur les ischios. Si on a en plus une amnésie des fessiers et qu'on n'a pas le fessier qui intervient du tout, on peut se faire très mal si on n'a pas les ischios qui sont assez solides. Après, normalement, si les gens veillent au grain, on fait attention à ne pas mettre trop de rondelles sur la barre pour que ce ne soit pas trop traumatisant.
Ouais, il faut vraiment être raisonnable. Hein. Le mouvement sur l'intensité, la qualité sur la quantité. Prenez le temps de mesurer les capacités de vos athlètes. Hein. Posez-vous toujours la question de savoir de quoi est-il vraiment capable, hein, avant de charger. Ce n'est pas la course à l'armement qui va faire qu'on va avoir un meilleur résultat à la fin. C'est la conscientisation des choses, c'est la prise de contrôle d'abord. Et une fois qu'on a ça, alors on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur. Alors justement, comment tu t'y prends, toi? Si on a un sportif qui est là, clairement, il est capable de préactiver ses fessiers, il est incapable de mettre de la tension, ce maillon de la chaîne est éteint.
Moi, pour vérifier, j'ai un petit test qui est tout con. Il se met sur un mur, enfin le long d'un mur, on fixe bien le buste et puis on essaye de faire partir le pied derrière en restant bien grand droit. Donc on suscite une extension de hanche, quoi, unilatérale. Et le truc tout bête, c'est de se dire, où est-ce que tu sens de la tension? Et s'il sent de la tension dans le fessier, normalement, c'est que le fessier est activé, il est réveillé.
Un minimum actif.
Il est un minimum réveillé, en tout cas. On n'a pas perdu la connexion motrice. Si ça ne marche pas, par exemple, s'il me dit, j'ai une tension dans le bas du dos ou j'ai une tension en ischio, eh bien, dans ce cas-là, je me dis qu'il y a un petit problème.
À plus forte raison que ça s'observe en plus. Hein. La tension dans le bas du dos, en général, est accompagnée d'une lordose lombaire marquée. Ouais. Donc, on peut observer les choses.
Et dans ces cas-là, je mets des exercices de renforcement tranquilles au début, où on cherche à isoler les fessiers, à faire des mouvements où ils sont obligatoirement sollicités. Ouais. Donc pas forcément des gros mouvements polyarticulaires qu'on connaît, mais plus des trucs où on va isoler la hanche et la mettre en abduction ou en extension. Et aussi, je mets un peu de protocole de mobilité de hanche, parce que souvent, ça se rejoint, les gens sont raides. Les mêmes qui ont débranché leurs fessiers sont
raides de la chaîne,
peu mobiles de la hanche. Donc voilà ma double attaque.
Ah, c'est intéressant, rappelez-vous qu'on a toujours ce côté raideur, souplesse et force, faiblesse. Hein, pour vulgariser un petit peu, les muscles, ce qu'on dit overactive et underactive, j'aime bien les termes anglais là-dessus parce qu'ils sont assez clairs, c'est vraiment un problème d'activation. Et donc en général, on a un petit package quand on n'est pas très actif au niveau des fessiers, souvent. On est suractif sur les antagonistes, sur les fléchisseurs de hanche et souvent le psoas. Et du coup, le psoas, vous vous rappelez, il s'insère sur les lombaires, un muscle transversal qui passe à travers le corps. Et donc, il va être responsable d'une fragilité globale de la zone qui peut résonner sur les abdominaux, qui peut résonner sur toute la zone pubienne finalement. Et pourquoi pas aller vers de la pubalgie.
Et plein de rameurs qui ont mal au dos, souvent, on se rend compte que c'est lié au psoas, à sa raideur, sa sursollicitation.
C'est ça, donc ça aussi c'est un problème, je trouve, de naïveté par rapport à l'entraînement des fessiers, c'est que souvent on se concentre sur ce maillon-là, alors que il va peut-être être répondeur, le fessier, un petit peu. Mais finalement, tellement peu comparé à la raideur de la chaîne antérieure, ouais, que le problème n'était pas tant là dans un premier temps. Donc pensez toujours les problématiques de force et faiblesse locales de manière beaucoup plus globale. Hein. Imaginez la grande image toujours, parce que...
Prends un pas de recul, on regarde ce qui se passe.
Prenons le temps. Et puis, on a des tas de manières de tester. Hein. Si vous suivez mon webinaire sur la mobilité, je donne un certain nombre d'outils là-dessus. Et aussi mon livre « L'art du mouvement qui en parle assez précisément. Mais vous ne prendrez pas vraiment de risque à toujours travailler l'agoniste et l'antagoniste de manière complémentaire quand vous détectez des problématiques. Ça fera de toute façon pas de mal à quelqu'un qui est faible des fessiers d'étirer son iliopsoas, son complexe iliopsoas. Donc n'hésitez pas à prendre du temps là-dessus. Il y a un autre outil que moi j'utilise beaucoup, je ne sais pas si tu t'en sers énormément sur une phase 1.2, peut-être une espèce de transition entre j'active et j'entraîne, c'est l'excentrique. C'est-à-dire que dans les déficits de force, hein, que ce soit local ou global, chez un jeune, chez quelqu'un qui est en reprise, chez quelqu'un qui est un petit peu faible, etc., souvent l'excentrique dans la tête de nos jeunes collègues, c'est beaucoup de la force max.
Ouais.
C'est une contrainte mécanique sur un muscle, hein, de l'excentrique. Il n'y a pas que de l'excentrique à 140%, hein, il y a aussi de l'excentrique modeste. Et c'est un moyen d'atteindre des gains de force très rapides,
ouais.
En l'occurrence très localisés. Et moi, je sais que je m'en sers beaucoup en transition sur ces gens qui dorment un petit peu des fesses. Je réactive dans
un premier
temps.
Tu fais quoi comme exercice en excentrique ?
Eh bien, de la retenir de la charge.
Ouais.
Alors là, typiquement, on revient sur du mouvement analytique. Par exemple, tu vas avoir le pied coincé dans un powerband qui est accroché à ras du sol sur un espalier.
Mm-hmm.
Et puis, tu vas reculer en position d'extension complète de hanche en préactivation.
Tu vas reculer ton pied ?
Tu recules ton pied et ton corps. Comme ça, ton corps t'aide à faire la phase concentrique.
Okay.
Voire même t'es aidé du coach s'il y a besoin,
ouais.
Et ensuite tu freines ton retour de jambe. Donc tu pars de l'extension en isométrie et tu freines ton retour de jambe.
Ah, la power band, elle te tire vers la flexion. Tu la retiens en extension et après
exactement.
Tu fais...
Ok, exactement. Ouais, je vois. Donc tu peux le faire aussi sur une machine, sur un boudin à bascule. Tu fais manuellement reculer ton boudin et tu freines simplement ton retour en partant d'une préactivation. C'est-à-dire qu'on est en extension de hanche, contracte le fessier, serre, et freine.
Ouais.
Et là, du coup, ça fait une belle
ouais, j'utilise plus
transition.
Dans l'abduction. Parce que parfois, tu leur dis, allez, faites des pas chassés.
Ouais.
Et en fait, ils vont super vite et ils n'ont pas le temps. Donc, c'est même pas, je ne suis pas spé excentrique, mais juste, je leur dis, contrôlez bien le mouvement, pas que ça, qu'il y ait de la vraie contraction, quoi, qu'il y ait de la tension dans le muscle. Pas qu'ils soient en train de juste bouger et puis que
de se déplacer sans
qu'ils se détendent. Ouais,
non, ce qu'on veut, c'est vraiment de la conscientisation.
Parfois, ils ne le détendent même pas, l'élastique, ils bougent comme ça.
Ah, je vois très
donc,
bien.
Donc, ouais, il faut être bien derrière, coacher le contrôle du mouvement, de l'amplitude, en excentrique et en concentrique. Mais du coup, ouais, j'utilise l'excentrique sur l'abduction. Enfin, du coup, sur l'adduction, la retenue d'adduction. Quoi.
Et alors, du coup, on a parlé des deux premières phases, ou de la première phase et de la première phase et demie, on va dire, de la transition. Maintenant, il y a la phase vraiment entraînement. Ok, j'ai des gens qui sont là, qui sont disponibles et disposés, si j'ose dire. Ils ont les fessiers qui fonctionnent correctement, qui s'activent correctement. Maintenant, il faut les rendre au moins aussi forts que ce qu'ils ont devant. Alors, comment tu t'y prends, toi ?
Bah, un peu comme je te disais tout à l'heure, donc une vraie part d'extension de hanche dans les patterns moteurs que j'entraîne au sol.
Arrêtez de considérer que ces patterns d'extension de hanche sont des mouvements complémentaires d'équilibration, ça devient des main moves, quoi. Des mouvements
dans l'avion,
principaux.
Tu vois, ça reste un truc qu'on fait pour plutôt l'équilibre et la prévention. Dans le volley ou dans plein d'autres sports, ça devient des vrais facteurs de performance, quoi. Il faut être fort. Tu veux courir vite, sauter haut ou loin d'ailleurs, et rester en l'air longtemps. Tes fessiers sont le groupe musculaire qui va, l'un des groupes musculaires qui vont t'aider le plus à le faire, qui vont te permettre de le plus le faire. Et donc, il est absolument important de leur donner une place, enfin, la place qu'ils méritent en fait, la place qu'ils ont dans la réalisation des performances, la même dans l'entraînement en fait. Et donc, ils en aient une principale.
D'ailleurs, tiens, j'ouvre une toute petite parenthèse rapide. On avait mesuré avec Laurent Delacour et Paul Abadi au pôle de Toulouse de Beach Volley. On leur avait mis des EMG intégrés et on s'était rendu compte qu'il y avait une plus grosse action motrice des ischios et des fessiers que des quadriceps. Alors, c'est pas vraiment indoor, elle est forte, mais pas autant quand même que les quadriceps, faut pas exagérer.
J'ai vu ces...
Mais en beach, c'était devant largement, ce qui est assez logique avec ces phases de freinage hyper intense en extension dans le sable sur un sol glissant. Et du coup, en fait... Voilà,
les ischios deviennent l'agoniste, en fait.
Exactement. C'est bien résumé.
Et donc, ils deviennent la priorité numéro 1. Mm-hmm. Même si la priorité numéro 2 doit garder... Enfin, on n'est jamais sur du tout. On développe comme...
À la juste mesure de l'activité.
De la demande de tâche. Voilà. Donc, ouais, comme on disait tout à l'heure, moi, le hip thrust est rentré dans les 6 principaux mouvements d'entraînement en polyarticulaire. Et après... pas mal de petits exercices de renfo. Si je fais une séance de renfo global, même avec des jeunes rameurs, tu vois, il y a toujours 3-4 exercices sur 15, il y a toujours 3-4 exercices d'extension de hanche et de travail de la chaîne post globale qui traînent dans la séance. Quoi.
Alors il y a une, ok, hyper intéressant, on va finir juste sur le répertoire gestuel, du coup effectivement, hip thrust, on a parlé du soulevé de terre, du deadlift, ouais, dans ces différentes formes, ces différentes déclinaisons.
Les swing
kettlebell, horizontalité de l'hyperextension, ou pas kettlebell d'ailleurs.
Avec des trucs qui te retiennent derrière, que ce soit des power bands ou des chaînes.
Ou même une poulie.
Ou même, oui, je pense que c'est poulie. Et j'en ai un autre, ouais, c'était les fentes.
Alors les fentes, hyper intéressant parce que, comme le dit Mike Boyle, bon, le squat, alors lui, un peu anti-squat, hein, Mike Boyle.
Ouais, un peu.
Mais c'est pas, il n'est pas anti triple flexion, triple extension. Ce qu'il dit, c'est que l'être humain et l'être humain sportif à plus forte raison est unipodale.
Ouais.
Et du coup, la mobilisation des fessiers, à un moment donné, doit aussi être adressée de manière unipodale si on veut aller au bout de notre logique de prévention et d'équilibration. Il faut aussi penser les fessiers en droite-gauche.
Et les hip thrusts et les ponts fessiers sont faisables
en unipodale.
Et les fentes ont aussi une place importante pour moi, et surtout dans les activités où on n'a pas les deux pieds collés. Quoi.
Bien sûr.
Donc le volet, notamment. L'aviron un peu différent, je fais moins de fentes en aviron, mais ouais. On a les pieds attachés, donc c'est
le
différent.
Le problème est réglé, ouais, bien sûr. Mais effectivement, mais ouais, les fentes, on a une tendance aujourd'hui.
J'ai vu des très grosses progressions grâce aux fentes.
Ça ne m'étonne pas.
Et pas que sur l'aspect fessier, c'est globalement.
Mais c'est important qu'on le dise parce qu'on a quand même une tendance aujourd'hui du coup au tout squat, au tout hip thrust et au tout deadlift.
Ouais,
bon, très bien, hein, mais encore une fois, latéralisons un petit peu le travail, ça reste un gage de spécificité et de prévention et à la fin de performance.
Ouais.
Super, Jean, écoute, vraiment merci de venir soutenir ce débat ici avec moi parce que c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez suivre ce podcast en version augmentée hein, sur mon site, mais pas que, puisque vous savez qu'il y a tout un tas d'épisodes complémentaires que vous pouvez aller chercher sur le e-campus de transfert, souvent là aussi en version augmentée. Si vous voulez avoir un petit peu plus de Jean Nourry, ben, n'hésitez pas, il est très actif sur les réseaux.
J'essaie d'être actif Jean Nourry sur Instagram. Prépa physique.
Jean Nourry prépa physique sur Instagram. T'as un compte Facebook aussi, non? T'es trop jeune.
Non, j'ai mon compte perso que j'utilise un peu.
Ok, donc c'est sur Instagram que ça se passe, comme souvent maintenant. Et je crois que tu as créé un blog aussi avec des collègues.
Ouais,
tu peux peut-être nous en dire deux mots.
Ouais, bah, pour changer un peu, on a fait un blog... On s'est associé avec mes collègues de promo qui sont de différentes spécialités et on écrit un blog où on parle de prépa physique mais avec un œil de spécialiste sur nos spécialités. Donc directement transféré. Donc moi j'écris sur l'aviron, eux ils écrivent sur le rugby et sur le basket et on a un collègue qui fait un peu d'athlétisme, enfin de course à pied. Et donc on écrit tous sur l'APP mais avec un œil toujours spécialiste et on transfère directement à notre activité. Donc voilà, si bon, vous voulez faire un tour,
c'est bien de dire le nom.
Ouais. Tu peux faire un promo ou pas?
Bien sûr.
C'est lynxperformance.com.
Ok.
Merci.
Bon, écoutez, allez tous jeter un œil à ce blog. Il y en a suffisamment peu qui font l'effort de partager et de mettre en commun pour qu'on soutienne et puis surtout qu'on aille prendre tout ce qu'il y a à prendre. Merci cet effort-là. C'est très apprécié et appréciable. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast.
Au revoir.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.